Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'émissions basée sur le livre biblique nommé Ruth. Jean-Marc est de retour parmi nous pour nous accompagner dans nos discussions.
Jean-Marc, lors de notre émission précédente, nous avons vu qu'Élimélec, dont le nom signifie « mon Dieu et roi », quitta le pays de Juda avec sa famille, car une famine y sévissait. Or, Juda était le lieu où Dieu l'avait placé. Cependant, il se réfugia à l'encontre de la volonté de Dieu dans le pays de Moab. Mais cela n'impliquait-il pas que ses fils serait obligé de grandir dans un pays où le péché y était pratiqué, plutôt que dans un pays où Dieu y était honoré?
Absolument, Yann. Les Moabites adoraient des faux dieux, des idoles. Vivre parmi eux ne pouvait guère offrir un environnement exemplaire à ces jeunes garçons, surtout à un âge où l'on tisse des liens d'amitié importants. Mais, nous l'apprendrons bientôt, les circonstances dans la vie même d'Élimélec ne feront qu'empirer. C'est pourquoi, à travers l'arrière-plan qui nous est dépeint dans l'histoire de Ruth, nous examinerons les leçons spirituelles que nous pouvons apprendre. Car, comme je le dis souvent, s'il est bon de tirer des leçons de ses erreurs, ce qui est encore mieux et moins douloureux, c'est d'en apprendre aussi de celles des autres.
Oui, et comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Jean-Marc et Élimélec croient en Dieu et pourtant ils sont éloignés. C'est une chose dangereuse que d'agir ainsi. Et cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous.
Oui, soyons francs, si nous n'y prenons garde, chacun de nous peut s'éloigner du Seigneur. Progressivement, petit à petit, la flamme pour Dieu qui embrasait nos cœurs peut vaciller et s'estomber. Et avant que nous le réalisions, nous avons perdu cette vision si importante d'un grand Dieu qui accomplit de grandes choses.
Et comment tout cela s'est-il terminé pour Élimélec et sa famille dans le pays de Moab?
Pour Élimélec, les résultats en furent désastreux, puisque ce pays lointain allait devenir un cimetière pour lui et toute sa famille, à l'exception d'une personne, Naomi. En effet, le troisième verset du premier chapitre du livre de Ruth nous apprend « Élimélec, mari de Naomi, mourut. Qu'elle vit gâchée tout ce à quoi il s'était employé à Moab n'a servi qu'à renforcer l'idée que Dieu ne demeurait pas au centre de sa vie, contrairement à ce que son nom, mon Dieu et roi, indiquait. Il y a un principe ici qui s'applique à chacun d'entre nous si nous allons en l'encontre de la volonté de Dieu. Quand le Seigneur n'est plus notre roi, la vie perd alors tout son sens.
Et le même verset nous apprend que la femme d'Élimélec, Noémie, reste avec ses deux fils.
Leurs noms ont été respectivement traduits par le maladif et celui qui se laisse dépérir.
Ce sont de drôles de noms, ils n'avaient pas l'air d'être en bonne santé.
En effet, nous n'en sommes que plus attristés pour Naomi. Son mari ne vécut pas à la hauteur de son nom et ironiquement, ses deux filles, quant à eux, portaient bien les leurs. Et puis, voilà qu'au verset 4, nous apprenons que ces deux garçons prirent pour épouse des femmes moabites. Puisqu'elles n'étaient pas croyantes à ce moment-là, nous ne pouvons qu'en conclure qu'il s'agissait d'une alliance avec un peuple ne connaissant pas Dieu. L'une de ces femmes s'appelait Orpa et l'autre Ruth.
Oh, c'est l'histoire de Ruth qui nous intéresse.
Oui, imaginons ce qui s'est passé. Un beau jour, une famille vient habiter dans le voisinage de Ruth. Or, cette famille croit au Dieu d'Israël. Auparavant, Ruth n'a jamais rencontré de tels gens, car ils adorent le vrai Dieu de la création, le Dieu Tout-Puissant. Certainement, cette famille lui enseigna qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est Seigneur sur toutes choses. Il voit tout, connaît tout et se tient partout à la fois. Cette découverte a dû avoir un effet incroyable dans le cœur de Ruth, car elle se mit à avoir soif de Dieu. Au fil des années, Naomi avait sans aucun doute partagé sa foi avec ses fils et ses belles-filles. Et Ruth fut celle qui montra de l'intérêt. Elle avait certainement dû en poser des questions sur le Dieu des Hébreux et Naomi lui avait certainement tout raconté et Ruth avait soif de Dieu.
Comment expliquez-vous cela?
Parce que Ruth, petit à petit, apprenait à connaître ce Dieu vrai et vivant, ce Dieu pur et saint. Vous savez, Ruth était une personne ravissante, aussi bien physiquement que dans ses manières. D'ailleurs, la signification de son nom est associée à la notion de beauté et d'amitié.
Et pour quelle raison alors a-t-elle bien pu accepter de se marier avec Mahlon, le maladif?
Permettez-moi de suggérer une raison possible à cela. Il est facile d'imaginer qu'ayant entendu parler du Dieu vivant pour la première fois de sa vie, son cœur en fut touché, à tel point qu'elle pensait qu'en se mariant avec cet homme appartenant à une famille de croyants, elle pourrait en découvrir davantage sur ce Dieu vrai. Dans le plan souverain de Dieu, c'était là le premier pas d'un voyage plein de surprises pour Ruth. Certaines désagréables et déplaisantes, mais toutes nécessaires. Car voici qu'après la mort d'Élimélec, Mahlon et Kiljon moururent eux aussi.
Laissant derrière eux trois femmes endeuillées, Noémie, Ruth et Orpa.
Malgré la tragédie de la mort qui frappa la famille de Noémie, nous allons être les témoins d'une nouvelle vie dans le cœur de Ruth. Voilà trois femmes, Noémie, Ruth et Orpa. Deux de ces femmes semblent destinées à la vie éternelle, tandis que la troisième ne semble jamais avoir connu la vraie vie. Vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh bien, Yann, s'il vous plaît, pouvez-vous lire Jean, chapitre 12, verset 25?
Bien sûr. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle.
Merci. Vous pourrez noter le contraste très fort entre ces deux termes, aimer et éprouver de la haine. Or, s'accrocher à sa vie dans ce monde, c'est la perdre pour l'éternité. Malheureusement, c'est l'attitude que nous découvrirons chez Orpa. Lorsqu'arrive le moment de prendre une décision, alors que celui qui aime le Christ sait faire le tri dans ses priorités. Il hait les choses du monde et préfère celles de Dieu, comme Ruth et Noémie l'expérimentent.
Jean-Marc, ce qui apparaît vraiment dans notre étude d'aujourd'hui, c'est que Ruth et Orpa bénéficiaient toutes deux du même privilège d'apprendre à connaître Dieu, grâce au témoignage fidèle de leur belle-mère. Ainsi devenues veuves, elles avaient toutes deux la possibilité de se tourner vers le Seigneur, afin de trouver en lui consolation et réconfort.
C'est vrai, le Seigneur utilise les temps difficiles et douloureux de la vie pour nous amener à reconnaître notre besoin de lui et nous permettre ainsi de déposer tous nos soucis sur lui. Il voudrait que nous cessions de nous démener et que nous puissions au contraire réaliser pleinement qu'il est Dieu. Si notre engagement pour lui est sincère, notre foi deviendra plus forte au temps de l'épreuve et de la souffrance, parce que nous découvrirons que sa fidélité est à l'œuvre. Ruth et Orpa étaient mises au défi d'abandonner les idoles et les faux dieux de Moab, et le fait de devenir veuve était, à mon avis, un moment crucial. Nous en parlerons plus en détail dans notre émission suivante. Mais en attendant, réfléchissons à ce défi. Dieu veut que chacun de nous abandonnions les faux dieux qui demeurent dans notre vie pour le suivre lui seul de tout notre cœur. Le faisons-nous ? Voilà la question.
Merci Jean-Marc pour votre participation aujourd'hui. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons sérieusement à la question qu'il vient de poser.
Ne l'oublions pas, l'idolâtrie ne consiste pas simplement en l'adoration ou en la crainte de Dieu fait de pierre ou de bois. Non, l'idolâtrie inclut toute activité, toute influence qui domine nos vies. La recherche de l'argent, la soif du pouvoir ou de la célébrité peuvent devenir une forme d'idolâtrie, comme la pratique de la sexualité en dehors du mariage, ou encore les pratiques occultes. Seul le Seigneur Jésus doit occuper la première place dans nos vies. Toute personne, toute idée, toute activité qui enlève au Seigneur Jésus la place qui lui revient, devient une idole.
Nous vous laissons donc sur cette exhortation de laisser Jésus régner dans vos vies, en vous disant à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.